un tango, une danse, un baiser, et un sourire.
Bidubuda, bébé, bébé.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
Ça y est, puis 21h.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
De grands rideaux blancs tombent sur chacun des côtés de la scène, piano à queue, pupitre, un seul, deux interprètes s'avancent, costume pour lui, robe rouge, caraco assorti, talons en velours pour elle. On est en terrain connu, un récital s'ouvre dans une grande ville européenne, un opéra peut-être. C'est le soir et dehors, les lumières de Noël sont accrochées aux arbres, voilà. Sauf qu'il n'est pas une seule note d'un lied de Schubert pour se glisser dans la bouche des chanteurs. La première chose qu'ils diront, leur voix soulignée par le piano, c'est un discours du ministère de l'Intérieur français indiquant les mesures à suivre en cas d'attentat. D'un seul coup, les codes vacillent et position latérale de sécurité, appel des secours, faire le garrot, tout ça se met à sonner autrement. Qui parle vraiment à qui là? Dans quel langage? Est-on certain de comprendre? Est-on certain seulement de partager quelque chose? Suivront des discours politiques, des monologues de chaînes YouTube, des canulars radio, des prêches religieux, des vidéos de coaching, à chaque fois dans des idiomes différents pour une symphonie d'un monde nouveau. Suite numéro 3, Europe, est un spectacle de l'Encyclopédie de la Parole, mis en scène par vous, Joris Lacoste, et dont la musique si importante est composée par Pierre-Yves Masset. Bonsoir et merci beaucoup d'être là.
Bonsoir.
Il se joue en ce moment dans le cadre du Festival d'automne à Paris à l'espace Cardin, dans cet écrin de verdure illuminé. Et puis ensuite, ce sera en tournée, on dira ça tout à l'heure.
Le petit bidon. On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table. Un petit bidon vide, un petit bidon normal, normalement sur la table, avec du vide dedans. Il est fermé, mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide, on n'a rien. On regarde sur la table et on voit un petit bidon qui ne déborde pas de la table. Le petit bidon reste bien à sa place. Il ne bouge pas. Il ne déborde pas comme une grande masse blanche qui viendrait par-dessus la table et qui viendrait déborder la table et qui viendrait se mettre dessous la table. Il reste au-dessus de la table. Il est totalement vide. Il ne se passe rien. Qu'un petit bidon sur la table. Mais dedans le petit bidon. Il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon. On a de l'air dans le vide du petit bidon de métal fermé. C'est un petit bidon, il n'est pas grand, il n'a pas beaucoup de taille. Il est un petit bidon d'huile qui est sur la table, qui est posé sur la table, et qui est vide et qui est fermé. Et dedans il y a de l'air. Et dans l'air, par contre, il se passe beaucoup de choses dans l'air. Il bouge, l'air bouge dedans le petit bidon. C'est qu'il est attiré l'air par la chaleur. Il est attiré par les surfaces du petit bidon. On a un petit bidon qui est seul, qui est posé sur la table, qui est tranquille et qui ne déborde pas. Mais dedans le petit bidon, il y a de l'air qui déborde, qui bouge, qui fait des effluves, qui fait des montées.
Qu'est-ce qu'il y a dans le bidon? Demande Christophe Tarcos à mesure qu'il le décrit. Et il finit par rentrer et par y voir de l'air et d'un seul coup il se passe beaucoup plus de choses que prévu. Joris Lacoste, on commence par entendre la voix de cet homme et la manière dont il prend part au langage et à la langue. Peut-être pour revenir sur votre démarche et sur ces quelques années écoulées maintenant, plus de 10 avec l'Encyclopédie de la Parole, à chercher aussi à savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui bouge dans l'air quand ça parle? Est-ce que vous pourriez dire un peu le chemin que vous avez fait?
Moi, c'est très émouvant de réentendre le petit bidon parce que c'est
à chaque fois.
Ouais, mais c'est un des premiers enregistrements qu'on a collectés au début du projet d'Encyclopédie de la Parole, puisqu'on a commencé avec un petit groupe de gens qui avaient chacun des collections d'enregistrements de paroles dans des genres différents. Donc certains étaient plutôt spécialisés en poésie ou en poésie sonore. D'autres collectionnaient plutôt des discours politiques. Certains avaient un goût particulier pour les grands séminaires de Barthes, de Foucault ou de Deleuze. Certains faisaient du cinéma documentaire ou de la radio, donc plutôt des interviews. Et à l'origine du projet, c'était vraiment essayer de mettre en commun ces types de paroles, à travers les enregistrements, et de voir comment on pouvait les entendre, les rapprocher, pas seulement du point de vue de ce qu'ils disent, mais plutôt de ce qu'ils font, d'écouter le contenu de la parole, mais aussi la forme, la manière de parler. Et dans Le Petit Bidon, c'était cette façon de reprendre, de répéter, de varier. C'était quelque chose qui nous avait frappé dès le départ, et qu'on avait mis en relation avec des enregistrements comme la météo marine, par exemple. C'est-à-dire qu'on essayait comme ça de produire des rapprochements, des parentés entre des discours qui normalement dans la vie ne se rencontrent pas. Enfin, il y a peu de situations où on les met ensemble. Et pourtant, quand on vit, on est en permanence traversé par des discours et des paroles de registres différents. Du matin au soir, on entend des conversations courantes à la maison, puis des choses qu'on entend à la radio, puis des annonces dans le métro, des vidéos qu'on écoute sur YouTube, des choses qu'on entend à la télé, des situations de travail ou d'école. Et tous ces discours fonctionnent de façon extrêmement singulière, spécifique. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir comment on peut reconnaître dans certaines formes, qui sont des formes, pas forcément des formes artistiques ou des formes valorisées en tant que telles, des phénomènes, des manières de varier la parole ou des manières de créer de la parole qui soient aussi intéressantes ou inventives que dans des paroles de poètes ou de grands orateurs.
Donc l'intuition de départ, c'est d'aller dans ces rapprochements-là, chercher l'art, ou pas nécessairement? Parce que quand on vous entend, c'est comme si vous vous disiez, tous les registres de parole, on va y trouver quelque chose qui fait que la langue est spécifique, est singulière.
En fait, on s'est rendu compte que quand on écoute une parole, presque n'importe quelle parole, et quand on passe du temps à l'écouter, à la travailler, à la reprendre, on trouve toujours des choses intéressantes. Et ce que nous, on cherchait à faire dès le début, c'était de voir comment, dans des paroles qui sont considérées comme profanes ou peu dignes d'intérêt, on peut entendre des formes de création, d'inventivité langagière, qu'on retrouve dans des paroles qui, elles, sont considérées comme artistiques. Donc c'était beaucoup essayer de jouer sur ce rapprochement et de voir comment dans la société, dans les interactions courantes, on est tout le temps aussi en train d'inventer, en train de faire varier les formes de paroles. Et ça, c'est toujours une question de point de vue. C'est-à-dire qu'il suffit de le déplacer, il suffit de le faire entendre sur une scène, par exemple, pour qu'on l'entende comme de l'art.
Il y avait déjà cette question de la hiérarchisation entre diverses paroles et diverses façons de prendre la parole. Vous y allez avec, au départ, il y a 10 ans, l'hypothèse de la bousculer, cette hiérarchisation, de dire il n'y a pas de parole qui vaut plus qu'une autre. Alors, ça n'est pas anodin de le faire à un certain moment. Pourquoi est-ce que vous le faites à ce moment-là? Et qu'est-ce que ça veut dire que d'aller déranger la hiérarchie des paroles il y a 10 ans?
Ouais, c'est exactement ça. C'est comment on peut déjouer cette hiérarchie en cherchant un point d'écoute qui soit particulier, en inventant une manière d'écouter ensemble des paroles de façon à se créer une sorte de niveau de plan sonore sur lequel on va plus poser la question de la hiérarchie. Il ne s'agit pas de dire que toutes les paroles se valent en soi. Elles ont toutes des formes de valeur par rapport à certains critères ou certains contextes. Mais si on sort de ces critères et si on sort de ces contextes, on peut trouver une manière de les entendre sans que la question de la valeur se pose, simplement.
Pourquoi à ce moment-là?
Je pense que c'est beaucoup une question liée à la technologie. C'est-à-dire que l'Encyclopédie de la Parole a commencé il y a 10 ans, donc en septembre 2007. On s'est rendu compte après que finalement, ça aurait été difficile de le faire avant, simplement parce que c'est le moment où l'accès à l'enregistrement s'est spectaculairement ouvert par l'usage de l'Internet, par l'arrivée de YouTube en 2005-2006, je crois. Et que du coup, la collecte d'enregistrement était beaucoup plus facile et beaucoup plus abordable. Et que jusque-là, moi je sais que dans les années 90, je collectionnais de la poésie sonore, mais c'était des cassettes, c'était des CD, c'est des choses qui étaient très très relativement difficiles à trouver, qu'on trouvait dans des boutiques très spécialisées. Et ensuite est arrivé, même ne serait-ce que le fait que l'INA, par exemple, ait mis en ligne ses archives, il y a tout de suite une manière de, une approche ou une sorte d'archive globale qui s'est ouverte et qui nous permettait de trouver facilement, si on a besoin par exemple de trouver un commentaire sportif, par exemple si on cherche un commentaire de tiercé. Voilà, avant il fallait vraiment faire des demandes particulières à la radio, ou alors il fallait les enregistrer sur le moment, au moment où elles passent à la radio. Aujourd'hui, c'est très facile de les trouver, soit par des podcasts, soit par YouTube.
C'est très facile et c'est très massif. Et peut-être que justement ces 10 ans qui sont passés n'ont eu de cesse que d'élargir l'entonnoir et peut-être aussi de faire entendre de plus en plus de personnes, pour le pire et pour le meilleur. Parce qu'en vous écoutant, je me disais, bien sûr, l'avènement de certaines technologies, c'est aussi la possibilité de rendre audibles des paroles qui jamais ne l'auraient été, mais jamais auparavant. Joris Lacoste, avec ce spectacle-là, donc 10 ans après le début de ce travail, suite numéro 3, vous décidez de faire entendre, je vous cite, des mauvaises langues. Alors d'un seul coup, moi j'ai quand même eu la sensation que la question de la hiérarchie, elle revenait au galop.
Non, c'est pas posé dans ces termes-là. Disons que la suite numéro 3, elle vient après deux spectacles, la suite numéro 1 et la suite numéro 2, où à chaque fois on s'intéressait à des dimensions particulières de la parole. La suite numéro 1, donc c'était une forme chorale, où on mettait en scène des paroles qui avaient toutes plus ou moins en commun le fait de parler de la parole. De parler comment on parle, comment on prend la parole, comment on apprend à parler, comment on apprend des langues. Ça jouait vraiment comme une sorte d'introduction. Dans la suite numéro 2, on s'est posé plus la question de l'action, comment les paroles agissent sur le monde, comment elles ne se bornent pas à décrire des situations, mais elles ont une forme de... un effet de transformation de la réalité au moment où elle s'énonce, comme une déclaration de guerre, par exemple, change massivement la situation, mais même une déclaration d'amour aussi, à son échelle, une échelle beaucoup plus intime, change aussi une situation. Donc c'était cette manière de voir aussi comment le théâtre, qui est l'art dramatique, disons, qui est vraiment étymologiquement de l'action, comment on pouvait le représenter, ou comment on pouvait le travailler du point de vue des paroles elles-mêmes. Et dans celui numéro 3, on a voulu s'intéresser aux effets des paroles sur nous. Parce qu'aussi, on s'est rendu compte que on vit aussi dans un monde de discours, un monde de paroles, où on est en permanence, on subit en permanence des effets de discours, et des effets qui sont parfois des effets désagréables ou des effets indésirables. Et ça nous semblait intéressant de nous imposer cette discipline, d'aller écouter ce que on n'a pas envie d'entendre, et qui nous semblait aussi une manière assez basique d'exercer de questionner la question démocratique. C'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi le fait d'écouter des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et le fait de mettre ces paroles en musique, c'était une manière de travailler de comment la musique peut nous permettre d'écouter différemment ces choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Quelque chose de très paradoxal, évidemment, parce qu'on s'est imposé pendant un an et demi qu'a duré le processus de création de cette pièce, on s'est imposé d'écouter au quotidien des choses qu'on n'avait pas envie d'entendre, mais en essayant de trouver à chaque fois, pour chacune de ces paroles, une approche, un angle d'écoute qui nous permettrait de l'entendre différemment, et puis peut-être de comprendre comment elle fonctionne.
Ce qui n'explique pas, mais peut-être on y reviendra, l'usage du mot « mauvais ». Parce que dans ce que vous dites, c'est quelque chose, ne pas avoir envie d'entendre quelque chose. Mm-hmm. Mais parler d'une mauvaise langue, ça dit bien qu'il y a un endroit, quelque chose qui est de l'ordre du jugement moral, ou du jugement tout court.
C'est vrai, c'est pas du tout un terme. Enfin, c'est pas du tout c'est pas ce qu'on s'est raconté nous ce qu'on a quand on s'est avec l'Encyclopédie de la Parole, quand on a commencé à se réunir et puis à se poser ces questions là, on se posait beaucoup plus la question de chacun. On a commencé à se demander quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre simplement, ou qu'est-ce les paroles qu'on entend et qui provoquent en nous des réactions de rejet, de répulsion, de mise à distance, en projetant l'idée du spectacle, en se disant que un spectacle fonctionne beaucoup sur l'adhésion et sur l'identification entre les spectateurs et ce que disent les acteurs ou les acteurs eux-mêmes, et que du coup c'était ça comment on pouvait réussir à faire un spectacle qui repose a priori sur une forme de répulsion plutôt qu'une forme d'adhésion. Donc quand on parle de mauvais, c'est peut-être pas tant en termes moral du bon et du mauvais, mais ou alors c'est du bon et du mauvais comme il y a des bons goûts et des mauvais goûts, enfin des choses qu'on aime manger, des choses qu'on n'aime pas manger, mais c'est pas tant en termes de bien et de mal, puisqu'il n'y a pas de... Encore une fois, notre critère c'était comment ces paroles nous affectaient nous. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas d'autre critère possible. Pour les choisir, ouais.
An investment into a second passport is becoming nowadays the smartest strategy for frequent flyers, global businessmen, and citizens who originate from troubled regions. Becoming a dual citizen has a great number of benefits, but it could take years for someone to acquire an immigration status through traditional ways. Giovanni Gru and First Class Global Citizen introduce you to the ultimate citizenship experience. A trustworthy partner when it comes to taking the next step with your second passport. Having a dual citizenship, the whole family can enjoy the benefits of visa-free travel and global mobility in more than 150 countries. Uninterrupted access to the most prestigious schools and universities without the need of student visas, efficient healthcare system, and freedom to live and work anywhere within the EU. With a Cyprus citizenship program by direct investment and real estate, you can enjoy full benefits of a European citizen. Do not leave anything to chance. Protect your family's future. Apply for Cyprus citizenship and become a European citizen in less than 90 days. With Giovanni Group and First Class Global Citizen, you can cut through the noise and make the right decision. So why not contact us today and start your journey on becoming a global citizen.
Un extrait de suite numéro 3, Joris Lacoste, on entend ici, on va les citer, les trois interprètes, Bianca Iannuzzi, qui est à la clave.
Pour ce document, oui.
C'est ça. Laurent Deleuil et Denis Chouillet au piano, Laurent Deleuil à la voix. Et donc la conception musicale, Pierre-Yves Masset, vous avez dit tout à l'heure, mettre en musique, alors là, en l'occurrence, il s'agit d'une publicité pour des solutions d'investissement d'un promoteur immobilier qui dit, vous allez devenir citoyen européen en 90 jours, investissez, pensez au futur de votre famille et ayez un passeport à l'occasion. Et on entend ici qu'il y a une transformation qui est opérée et qui est très opérante, qui vient de la musique. Mmh. Beaucoup plus présente que sur les suites numéro 1 et suites numéro 2. Mmh. Pourquoi est-ce que, alors vous avez dit tout à l'heure, les rendre écoutables, ces choses non désirables, dans quel sens Pierre-Yves Masset a travaillé avec vous à leur musicalité nouvelle?
On a travaillé pour, on a cherché des solutions pour chaque document. Il n'y a pas du tout une formule
d'intention
générale, non. Et d'ailleurs, les styles musicaux qui sont dans le spectacle sont très variés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a écouté le document et on a réfléchi ensemble à quel type de distance, quelle serait la bonne distance à trouver et comment la musique peut permettre de trouver cette distance. Là, dès le début, on a posé que la musique devait représenter ou incarner la position critique. Ce qu'on demande aux interprètes, c'est d'être dans une forme de littéralité la plus exacte possible par rapport au document, c'est-à-dire de reproduire le document d'origine, l'enregistrement d'origine.
Et l'intention de la langue.
Et l'intention de la langue, tout à fait. Donc les chanteurs, là en l'occurrence, n'ont pas ne portent pas la distance. Et c'est au piano, enfin c'est à la composition du piano et au pianiste qu'on demande de faire porter cette distance critique. Donc pour chaque document, on a à la fois cherché quelle forme musicale serait juste, et aussi comment le piano pouvait à certains moments rivaliser avec la parole. Là, c'est une forme d'accompagnement qui est relativement neutre sur ce document-là, mais il y a d'autres documents où le piano prend beaucoup plus de place, vient parfois prend le devant de la scène ou vient contre la parole. Parfois, il a aussi une fonction ironique. Donc à chaque fois, on a essayé de déduire ou d'induire plutôt l'accompagnement musical à partir de la parole elle-même. Pour des questions qui sont à la fois de forme, c'est-à-dire que le premier mouvement de Pierre-Yves Massé, c'était de transcrire les paroles musicalement, et donc de voir comment dans chacune de ces paroles, on pouvait transcrire des mélodies, des rythmes, enfin vraiment faire des partitions musicales. Et le deuxième mouvement, ça a été de composer l'accompagnement de piano. Et c'est là où on se pose ensuite les questions qui sont à la fois des questions musicales, quel arrangement ou quelle orchestration, quel accompagnement composer à partir de ces mélodies et de ces rythmes-là, mais aussi des questions qui sont des questions dramaturgiques et théâtrales, quelle place prend le piano à tel ou tel moment du spectacle.
Vous parlez d'une introduction d'une distance, elle passe aussi, en fait, même si ça ne passe pas dans leur interprétation vocale, par le corps de vos interprètes. En tout cas, tout travaille à ce qui nous est présenté par des écriteaux comme étant tel ou tel discours, telle ou telle publicité, telle ou telle. En tout cas, la source est toujours très claire. Tout travaille, en effet, à ce qu'il y ait une distanciation qui passe assez souvent par un sourire, par de l'ironie, par un regard qui décolle, en fait, de la langue. Parce que vous vouliez que cet exercice, il soit joyeux, que cette plongée dans ce que vous ne voulez pas entendre du monde ou des paroles du monde soit un exercice joyeux, Joris Lacoste ?
Je sais pas, c'est vous qui le dites.
Non, je vous pose la question, je me suis demandé
non,
hier soir.
On n'a pas cherché à faire quelque chose de joyeux. Après, il y a beaucoup de documents qui... on s'est rendu compte très tôt, même avant ce spectacle-là, que la simple transposition sur la scène d'un enregistrement produisait un effet ironique. Simplement parce que...
Mais il pourrait être glaçant.
Il pourrait être glaçant, mais il y a le fait d'enlever un contexte ou faire un transfert de contexte depuis un contexte d'origine, par exemple un discours politique ou une vidéo, un youtubeur ou un commentateur sportif par exemple, ou un entraîneur de foot dans ce numéro 3. Simplement le fait de passer du vestiaire, par exemple du contexte du vestiaire qui est celui de l'enregistrement d'origine à la scène et de le présenter dans un code qui est celui à la fois du théâtre, de la musique, du récital, voire de l'opéra. Cette transposition-là en elle-même, elle est ironique. Donc déjà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je veux dire, il faut même plutôt chercher parfois à gommer les effets d'ironie. On n'a pas cherché, disons, à rendre les choses joyeuses. On a cherché plutôt mais ça, c'est un travail qui est un travail de très très précis sur à la fois sur chaque document, mais presque sur chaque phrase ou chaque intonation. On a essayé de trouver la distance. C'est toujours cette question de trouver la bonne distance, qui passe par la musique, qui passe évidemment aussi par le travail chorégraphique, qui là en l'occurrence a été fait en collaboration avec Lenio Caclea. Et donc c'est un ensemble d'éléments, par les adresses, comment on s'adresse au public, parce que quand on transfère un contexte, on transfère aussi une manière de parler. C'est pas la même, quand on parle à la caméra, quand on fait une vidéo YouTube, ou quand on parle à une audience, quand on fait une conférence de presse, comment on transfère ça dans un public de théâtre, comment on parle? Est-ce qu'on parle à tout le monde? Est-ce qu'on parle tout droit? Est-ce qu'on choisit une personne dans le public? Est-ce qu'on parle à son partenaire? Donc ça, c'est aussi des choix qu'on fait. Il n'y a pas de transposition, disons, naturelle ou évidente. Donc cet ensemble de différents paramètres, on joue avec pour essayer à chaque fois de trouver l'endroit qui nous paraît l'endroit le plus ambigu, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est pas de les rendre écoutables, ou c'est pas de les rendre audibles ou acceptables. C'est plutôt de déplacer l'écoute à un endroit où le spectateur va à la fois les entendre, à la fois son écoute va être à la fois aussi déplacée ou distanciée par les autres éléments qui sont la musique, qui sont le corps, qui sont le jeu des adresses, et d'essayer de trouver un endroit qui est un endroit inhabituel ou ambigu, par lequel on va pouvoir tout d'un coup les entendre comme on les a jamais entendus.
C'est un extrait de la suite numéro 3, Joris Lacoste. Ici, on est dans, je trouve, la situation où la distance induite, où la, vraiment la distance, pas au sens ironique pour le coup, mais le décollement induit par la mise en musique et le chant de Bianca Iannuzzi, fait qu'on est tous, sauf dans l'ironie et la drôlerie et la joyeuse, et le caractère joyeux dont je parlais tout à l'heure, on est dans presque le soulignement du caractère dramatique d'une femme qui mendie dans le métro à boire. Et j'ai trouvé qu'il y avait un endroit de bascule à ce moment-là dans le spectacle, dans la création, hier soir en tout cas, car d'un seul coup, tout devenait très grave. Et le rapport à la parole faisait qu'on ne pouvait plus rien faire d'autre qu'entendre.
Ouais, c'est en effet c'est peut-être aussi une des situations où la transposition est la plus grande, où l'écart est le plus grand entre le contexte d'origine et le contexte du théâtre, ce dont on parlait tout à l'heure, puisque ce genre de discours, on en entend beaucoup dans le métro, à Prague, comme à Paris, comme partout. Et c'est souvent des discours qu'on a du mal à entendre. Qu'on a du mal à entendre parce qu'ils sont pris dans une situation qui est une situation d'embarras, aussi parce qu'il y a beaucoup de parasitage sonore et que on entend ce que les gens disent, on n'est pas dans la disposition de prêter attention à la forme de la parole. Le document d'origine en particulier, celui-là qu'on avait trouvé sur YouTube, c'est un document dont la qualité sonore est particulièrement mauvaise. Il a fallu vraiment l'écouter et le réécouter plusieurs fois pour se rendre compte que il avait des formes de mélodie dans la parole de cette femme qui étaient extrêmement remarquables. Et c'est cette transposition, simplement en reprenant ces mélodies-là et en les accompagnant sur la scène, on fait apparaître ce chant. Qui n'est pas du chant, qui est une parole d'origine, mais ça devient du chant.
Et en même temps, ce qu'on ne pouvait pas entendre in situ ou dans le contexte, parce que c'est aussi un chant qui va avec un désespoir, avec un corps saoul, avec peut-être de la pauvreté, on imagine. D'un seul coup, on est en mesure de l'entendre dans un très beau théâtre, dans un des quartiers les plus chics de Paris, et tranquillement assis entre gens de la bonne société et de la bonne culture, interprété par une extraordinaire chanteuse lyrique. Je trouve que le caractère dramatique vient aussi de cela.
Bien sûr, bien sûr.
Et extrêmement dérangeant, en fait.
Ouais. Oui, mais ça, je pense que ça vaut pour la plupart des discours qu'on interprète. Mais c'est vrai que celui-là, c'est une manière aussi de faire entrer sur le théâtre des paroles qui en sont exclues.
Oui, mais sans les corps qui les portent.
Bien sûr.
Sans les corps qui les portent et sans la réalité de ceux qui les portent.
Oui, mais je pense que je pense que la véritable manière de les faire entendre, c'est pas de faire entrer sur le théâtre les corps qui les portent. Je pense que ça passe forcément par, d'une part, une forme de transposition et, ou voire de même, on pourrait même dire de transfiguration de la parole, mais ça passe aussi par beaucoup d'artifices. Je pense pas que ça serait à la fois possible, juste, et ni même intéressant de demander à cette mendiante de venir sur la scène du théâtre interpréter son propre discours. C'est là où l'enregistrement pour nous, c'est ce qui nous permet de travailler avec des paroles qui sont réelles, qui ont été dites un jour quelque part dans des situations particulières. Mais c'est seulement avec beaucoup de procédés, d'artifices, comme je disais, c'est un travail très, très long et très minutieux de transposition, de réinterprétation, de réappropriation de cette parole.
D'incorporation?
Qu'on peut lui rendre, oui, d'incorporation, tout à fait, ouais. Qu'on peut lui rendre justice. Après, c'est un discours qui est très ambigu, ce discours-là aussi, puisque, et puis il faut voir aussi, il vient après d'autres discours, dans la pièce, qui fait qu'il prend un sens aussi particulier à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est un peu une sorte de lamento, ou de, c'est un peu le moment, disons.
En même temps, il se termine par une forme d'injure et d'adresse à une autre personne qui est pour le coup très stigmatisante. C'est donne-moi à boire, tzigane.
Sale tzigane.
Sale tzigane. Ouais. Donc, on passe aussi d'une lamentation à une parole raciste.
C'est ça.
C'est aussi ça. Pour dire que c'est évidemment.
Et c'était ça aussi qui nous intéressait. Et ça, c'est vraiment la dernière parole, la dernière phrase de cet enregistrement. C'était aussi comment on joue avec des formes d'adhésion. Où tout d'un coup, on a effectivement on entend une personne qui mendie, qui demande de l'eau. Elle demande à boire, elle dit qu'elle a la soif, elle veut de l'eau. Donc c'est très difficile de ne pas créer un sentiment d'empathie ou d'adhésion, mais qui se retourne brusquement à la fin, puisque on entend cette insulte, et puis du coup on remet quelque chose aussi de la situation d'origine auquel on n'avait pas accès. Donc c'est plein d'ambiguïté. Ouais.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Oh! La représentation n'est pas la démocratie. Et c'est Sieyès qui le disait, qui insistait même dès 1789 en disant « Mais attention, nous sommes en train de créer un État représentatif et nous ne sommes surtout pas un État démocratique. » Et, disait-il, dans un État représentatif, le peuple ne peut parler et ne peut agir que par ses représentants. Autrement dit, la démocratie, c'est-à-dire l'expression du peuple, est contraire à la représentation, puisque dans le régime représentatif, le peuple ne parle pas, ce sont ses représentants. Ce qui fait que, déjà, il y a un problème quant à la définition que l'on accepte tous comme allant de soi, démocratie représentative, alors qu'elle ne va absolument pas de soi. Première chose. Deuxième chose, le problème de la démocratie représentative, c'est que elle fonctionne sur « au nom de ». Je gouverne au nom de, au nom du peuple. Ce qui fait que le peuple est à la fois le référent, je gouverne au nom du peuple, mais lui, il se tait. Ce qui fait qu'à tout moment, le peuple peut dire, mais attendez, non, c'est pas ce que je voulais. Regardez par exemple sur l'affaire de l'État islamique, qui dit parler au nom du peuple musulman, et qu'est-ce qu'on voit des musulmans avec des pancartes, pas à mon nom. Autrement dit, la démocratie représentative est toujours en manque, parce qu'à tout moment, le peuple peut surgir en disant non, vous parlez en mon nom, mais ce n'est pas ce que nous voulons.
Et revoilà le peuple qui manque. Ici, c'est Dominique Rousseau, dans une soirée spéciale Mediapart Live en 2014, qui fait la distinction, en tout cas qui reprend l'expression régulière qu'on utilise, la démocratie représentative, en disant que ça ne vaut pas. Joris Lacoste, dans Suite numéro 3, Europe, parce qu'en réalité le titre complet c'est cela, il y a une scène de parlement et de vote où des articles sont cités et censément adoptés. Et une députée, femme, dit « Mais qui a dit oui ? Qui dit oui ? Qui a voté oui à cet article ?» Et interrompt la litanie des articles comme ça, censément adoptés. Et comme ça, il se boxe dans une arène éminemment démocratique au nom d'un peuple.
Là aussi, ça se passe à Athènes.
Et ça se passe à Athènes. Là aussi, quelque chose est essentialisé dans la proposition que vous faites avec l'Encyclopédie de la Parole, Joris Lacoste, il me semble. C'est-à-dire que les grandes questions de qui parle à la place de qui parle à qui et qui parle au nom de quoi, semblent dans cette séquence-là comme réduites. Alors, voilà, pourquoi avoir choisi Athènes, une loi, et en quoi est-ce que ça parle de votre travail?
Moi, dans ce que je viens d'entendre là, de Dominique Rousseau, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette question de représentation, qui est un concept évidemment éminemment politique, mais aussi très théâtral. Et le premier spectacle de l'Encyclopédie de la Parole s'appelait Parlement. Et c'est pas non plus, ça jouait sur le fait que dans Parlement, il y a l'idée de parole, de parler. Mais c'était aussi une manière de dire que le travail de représentation qu'on faisait, notamment en faisant entrer dans le théâtre des paroles qui ordinairement sont exclues, c'était un travail qui touchait où la question de la représentation au sens théâtral et au sens politique pouvait se retrouver. Dans la scène du Parlement grec qu'on interprète dans ce numéro 3, donc c'est une scène qui a eu lieu en 2012, où donc il y a une loi qui est votée et il y a que 3 députés à ce moment-là qui sont présents dans hémicycle à Athènes, en tout cas dans l'Assemblée. Et le président de séance passe la loi en force, en fait. Il passe comme ça en revue tous les articles en disant article 1 adopté, article 2 adopté, sans que le vote n'ait réellement lieu, puisque aucun des 3 députés présents ne s'exprime, sauf 7 députés qui s'insurgent et qui met en cause la validité du vote. Donc ce qui m'intéressait, c'est que tout d'un coup, on avait une voix qui était... c'est-à-dire que c'est un document où, évidemment, toute la question de la démocratie et donc de la représentation est transgressée par le président.
Dont la parole agit comme un rouleau compresseur.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une parole qui est à la fois un rouleau compresseur et une sorte de au sens musical, de basse continue, puisque c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répétitif. C'est presque de la musique minimaliste, hein, ce qu'il fait, parce que ça dure quand même une dizaine de minutes où il enchaîne comme ça les articles. Et se superpose à cette basse continue, ces interventions extrêmement virulentes de cette députée qui viennent casser le cadre prétendument démocratique ou le cadre de la supposée soi-disante démocratie représentative. Et c'est un des quelques moments dans le spectacle où on peut s'identifier à cette parole, celle de la députée. C'est-à-dire qu'il y a évidemment quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre dans cette manière de bafouer de façon aussi ouverte et hontée la démocratie. Et en même temps, il y a quand même une voix, il y a quand même toujours une voix qui se dresse, qui s'élève et qui a une force de, enfin, qui a une vitalité. Qu'on n'entend pas dans la voix du président de séance. Donc c'était une manière de jouer sur ce contraste et de, pour nous aussi, de produire musicalement quelque chose qui est très contrasté entre ces deux voix et aussi avec la manière dont le piano accompagne les deux voix à la fois.
Et je dois dire, assez puissant, il se trouve que cette députée est une femme et qu'elle surnage vraiment, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui sort les bras, la tête, la gorge de l'eau pour pouvoir respirer et parler. Je souligne que c'est une femme parce qu'il y a aussi évidemment la question de la prise de la parole des femmes en politique et de manière générale, ça arrive à cet endroit-là, ça arrive aussi dans des vidéos YouTube de consommation, dans des vidéos YouTube de parole de soi. Alors, il se trouve que c'est un sujet de grande actualité, la question de la parole des femmes, mais concernant la parole, c'est un sujet tout court que celle des femmes.
Là, je veux juste aussi préciser qu'il y a quand même une ironie aussi qu'on peut pas percevoir dans le spectacle, mais que donc cette femme était une députée Syriza donc en 2012, avant la victoire de Syriza aux élections, et après, justement après la victoire de Syriza, elle s'est retrouvée présidente de l'Assemblée, donc elle a pris le poste de ce monsieur Virvidaki qui l'occupait en 2012. Oui, la question après c'est vraiment aussi quelque chose qui traverse, enfin il y a plusieurs moments dans le spectacle comme ça où à la fois la parole des femmes mais surtout aussi la parole des hommes sur les femmes est représentée, ou en tout cas est représentée de façon parfois extrêmement violente dans un canular radiophonique à la radio lituanienne par exemple, où l'animateur appelle une prostituée pour se moquer d'elle. C'est un moment qui est très déplaisant et embarrassant. Et il y a une autre scène comme ça aussi.
Et là, par exemple, comment est-ce qu'on en décale la violence, si l'objet est d'en décaler la violence? Quel est l'enjeu de la représenter sur scène, par exemple, cette violence du langage où un homme dit à une femme, non seulement en gros je t'appelle et le seul objet de cet appel ce serait de sortir de la station-service et de rouler jusqu'à toi pour avoir un rapport sexuel tarifé. Mais en plus, au passage, je laisse entendre que t'es certainement un gros tas de graisse, un petit cochon, etc. etc., etc. Là, sur scène, Où est la distance possible?
C'est un dialogue, donc on a la parole de l'animateur et on a la parole de la prostituée qui lui répond. Et le choix qu'on a fait pour cette scène-là, c'est le piano accompagne de façon très douce et très légère la parole de la femme. C'est-à-dire que c'est une forme d'empathie du piano avec la parole de la femme. C'est-à-dire que quand l'animateur parle, il y a rien, c'est en silence. Et c'est quand elle répond que le piano montre qu'il est là, qu'il est avec elle, qu'il la soutient. C'est très simple, ce document.
Dans les autres moments où la question de la parole des femmes intervient, je pense notamment à ces vidéos YouTube, parce que je ne crois pas que des vidéos seules face caméra, il n'en est produite par des hommes.
Dans le spectacle?
Dans le spectacle. Alors, de manière générale, je crois qu'il y en a pas mal, mais, mais dans le spectacle, ce ne sont que des vidéos de femmes. Une qui raconte ses courses, et l'autre qui dit que sa journée était pourrie.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Voilà, je crois pas qu'il y ait d'autres moments comme ça de vidéos YouTube qui soient portées par, par des hommes. Et ça donne aussi une certaine consonance à la parole féminine, c'est-à-dire ben, une qui a fait des courses et l'autre qui se languit sur sa vie ennuyeuse. Qu'est-ce que ça dit, ce choix-là?
Disons que c'est pas le choix de, c'est pas par rapport à la, au fait que ça soit toutes les deux des YouTube, des YouTubeuses, disons, ce qui est le cas. C'est-à-dire qu'après, il y a d'autres, il y a toutes sortes d'autres paroles masculines qui sont dans d'autres contextes, qui sont tout aussi, enfin, de façon différente, mais qui sont, on s'est pas posé la question de, du rapport de la parole à YouTube, au fait d'être des...
Pourtant, ça existe. Le rapport genré de la parole sur YouTube, c'est intéressant.
Oui, bien sûr, mais comme...
C'est pas votre propos.
Non, mais comme vous le disiez, effectivement, dans YouTube, il y a tout autant des YouTubeurs que des YouTubeuses, et il y a aussi des YouTubeurs qui montrent leurs courses. Enfin, c'est très... Ou des YouTubeurs comme... qui se languissent aussi et qui se prennent de leur sort. Donc non, ça c'était pas, c'est pas plutôt... Là, les questions sont des questions très... aussi très pratiques, c'est des...
Ensemble de collecteurs.
Le travail de collecte avant, enfin qui précède et qui se fait parallèlement au travail de composition et un travail de très 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 longue haleine où là on travaille avec des correspondants là dans tous les, puisqu'il y a 24 langues dans le spectacle qui sont les 24 langues officielles de l'Union européenne, donc on a travaillé avec des correspondants partout en Europe pour trouver tous ces enregistrements, et ensuite quand on, donc on avait des centaines d'enregistrements à partir desquels ensuite j'ai opéré une sélection et arrivé à cette composition de 26 documents interprétés. Et ensuite, là, les questions sont des questions qui sont... Enfin, les questions de composition sont des questions complexes parce qu'on a à la fois la question de... On a deux interprètes, un interprète masculin et un féminin, pour lesquels il faut ménager une certaine alternance. Il y a des questions de genre, de parole. Il y a des questions de langues qu'ils certains maîtrisent plus que d'autres. Et puis, des questions de dramaturgie musicale, évidemment. Et donc là, voilà, il se trouve que... La parole YouTube, enfin la parole YouTube, disons, est effectivement portée par deux femmes, mais c'est plutôt un
hasard.
Oui, c'est plutôt un hasard. C'est pas un choix délibéré.
Vous précisez qu'il y a 24 langues et tout ça dans une forme de, vraiment, je parlais d'une symphonie du Nouveau Monde. On aurait vraiment pu dire une symphonie européenne puisque l'Europe est présente dès le titre, Joris Lacoste. C'est un espace que vous avez choisi parce que au moins ça permettait d'en délimiter un, où ça permet aussi de se demander qui parle de quoi en Europe et est-ce que l'Europe parle à quelqu'un et de quelque chose.
Bah disons que c'est un terrain de recherche qui s'est imposé pour plusieurs raisons. La première, c'est à partir du moment où on avait décidé de travailler sur les discours qu'on n'a pas envie d'entendre, ça me semblait plus juste de nous limiter à un domaine qui nous est relativement proche. C'est plus compliqué d'aller chercher des choses qu'on n'a pas envie d'entendre dans des cultures et des contextes très 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 éloignés, parce qu'on en comprend peut-être moins toutes les implications. D'une part. D'autre part, c'est vrai que la contrainte des 24 langues officielles de l'Union européenne nous donnait aussi voilà, un cadre strict, puis j'aimais beaucoup le chiffre aussi de 24 qui correspond à, enfin qui est un chiffre très très musical, parce qu'il y a les 24 préludes, il y a le voyage d'hiver de Schubert, c'est en 24 leaders, etc. Et puis la forme, disons, du récital qu'on avait choisi au départ, c'est une forme qui est éminemment européenne, enfin qui figure la grande culture européenne du 19e siècle. Et donc ça nous paraissait aussi intéressant de confronter ce dispositif qu'on avait choisi du récital avec des paroles qui sont celles de l'Europe d'aujourd'hui, tout en sachant pertinemment que aussi dans l'Europe d'aujourd'hui se disent beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre.
Comme le racisme, comme l'efficience poussée à l'extrême au travail, comme la pauvreté,
les discours sur les migrants,
la sécurité à outrance. J'essaie de faire un inventaire de ce que vous avez pas envie d'entendre.
Comme les discours de campagne pleins de langues de bois, comme ces discours de déni de démocratie. Il y a beaucoup de.
Monsieur le maire. Jababobu, Coloca Crook, crax, crax, tourloupinouille. Poco grugu colo, votabrix, crétipunule. Prestala la papinaire, avistabix, avilili, la viropire, en la missure, ses urtibures. Ilistibor, acric, acroc. Parques, parquerante, parkerque, parkercrouc, parkercrouc, kercrouc. Cru, boco grugu colo. Salamonir et Sulion Bulopez, Anstaliope, Pétalimache, Catrapuère. Jijorere, Jorez Azulc, Bouir, Zinig, Zinog, Zenege. Malouir, Nielamel, Grouplistine, Benlamenfa, Falaminon, Creux, Songan, Reloque. Fou, Foum, Gritan, Sconglier, Zompézer, Vivoal. Comme, comme, Choco. Juris, Patache, Patache, Rudiquet. Vielle, Trava. Norc, Lop, Palazère. Rière, Envoche, Voltradil. Pomme, Pilotruche. Jean-Lys Mélo, Naloli, Trapu, Bielasserre. Tapicu, Kulki, Kakrouk, Krax, Krax. Je refuse le host.
J'allais dire ce que c'était. Vous vouliez savoir ce que c'était ?
Non,
c'est un extrait d'un atelier de fiction diffusé sur France Culture à partir du travail de Julien Prévieux sur les lettres de non-motivation et réalisé par Laure Egoroff pour France Culture donc, et qui est une des lettres de non-motivation, mais celle-ci dans une langue non compréhensible qui clôt le travail de Julien Prévieux. Il se trouve que c'est aussi dans le monde du travail, dans une vidéo d'entretien d'embauche, que c'est une non-langue. Alors si on dit... Si on dit l'abjection qui serait que la musique est une non-langue, mais en tout cas, voilà, la personne censée répondre à un entretien d'embauche pour s'y entraîner n'a plus de langue. Dans suite numéro 3, Joris Lacoste, c'est le piano qui prend uniquement en charge sa présence ou son absence ou son interrogation. Peut-être on termine aussi sur une ouverture. On aurait pu proposer à entendre d'autres travaux, d'autres personnes qui travaillent cette question du langage en ce moment. Il se trouve que c'est vraiment au cœur du travail de l'Encyclopédie de la Parole, mais c'est au cœur de beaucoup de préoccupations artistiques en ce moment. Ça vous dit quoi? Ça vous parle de quoi, Joris Lacoste? Que Julien Prévieux s'intéresse à la langue de la lettre de motivation ou des réponses qui y sont apportées, que ce soit un sujet.
C'est pas tant un sujet qu'une pratique qu'effectivement je sens.
C'est pas tant un sujet qu'une pratique pour moi.
Oui, je pense que c'est vraiment cette question de la pratique de travailler à partir de documents réels, que ce soit des documents textuels comme des lettres par exemple ou des annonces ou des journaux ou des documents sonores comme ce qu'on fait avec l'Encyclopédie de la Parole. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se, en tout cas dans mon cas, pour moi c'est vraiment un travail d'écriture de plein droit, cette manière de collecter des objets trouvés, de les composer, mais c'est une écriture qui est particulière dans la mesure où elle s'appuie sur des effets de réel qui sont directs, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas, enfin évidemment on stylise, évidemment on transpose, évidemment on traduit, mais il y a une forme de lien qui reste perceptible entre ce qu'on voit au final sur la scène du théâtre et la parole réelle qui a été prononcée un jour quelque part. Et c'est ce que je retrouve, oui, dans d'autres, effectivement, d'autres approches où il y a cette manière de faire entrer dans le processus des objets. C'est une pratique très, très ancienne, hein, évidemment. Mais c'est plus difficile pour moi aujourd'hui, par exemple, d'écrire un texte de théâtre qui serait un texte
de pure fiction,
qui viendrait uniquement de mon imagination.
Ça dit
par
quoi
exemple. Non, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste
non, je demande ce que ça dit. Le fait que la fiction soit impossible.
Ben, je pense que c'est aussi parce qu'on est peut-être on est plus aujourd'hui baigné dans un ensemble de dans des paroles et des discours, je veux dire qui sont beaucoup plus peut-être présent, en tout cas on y accède de façon beaucoup plus fréquente et facile, et que du coup le théâtre peut donner aussi, enfin peut, j'aime pas ou je ne me reconnais pas dans l'idée d'un théâtre qui serait une sorte de zone préservée, qui serait une sorte de caverne comme ça où on pratiquerait ou on exercerait un langage pur, non pollué par le capitalisme et le langage de la publicité ou des médias. Et je crois au contraire qu'il faut travailler à partir de ce langage-là. Il faut travailler à partir du langage qui nous traverse tous les jours et qu'il faut trouver des manières de le recomposer, de le refaire entendre différemment, de manière à pouvoir survivre au milieu de ces discours. C'est ça, c'est des stratégies de survie aussi. C'est-à-dire comment on fait pour pas devenir fou en étant en permanence traversé par tous ces discours. Et quand on est hyper connecté, comme beaucoup d'entre nous le sont aujourd'hui, je dirais, à un moment il faut trouver une manière de s'orienter, il faut une manière de recomposer tous ces flux d'informations de façon à les rendre simplement supportables.
Grand projet, suite numéro 3, Europe, que vous signez donc avec l'Encyclopédie de la Parole, mise en scène Joris Lacoste, création musicale Pierre-Yves Massé, je redis les noms de ces interprètes exceptionnels, Bianca Iannuzzi, Laurent Deloy et Denis Chouillet. Au piano, c'est en ce moment à l'espace CAR d'un théâtre de la ville dans le cadre du Festival d'automne jusqu'au 24 novembre à Paris. Ce sera ensuite à Cergy, 30 et 31 janvier à l'apostrophe. Et ensuite, quoi, ainsi de suite?
Ensuite, on continue un peu partout. Ouais.
On mettra la tournée sur le site internet.
Okay. Fell to earth, reincarnated from her birth. With thought on her wings, she had dust inside. She flitted here and there.
Par les temps qui courent, s'il n'y avait qu'un seul mot doux.
France, Switzerland, England, everywhere.
Je t'aime.
Par les temps qui courent, s'il n'y avait qu'un seul mot dur.
Jamais.
Par les temps qui courent, où se tenir tranquille en silence?
Dans sa tête.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec les musiciens Bachar Mahalife et Jeanne Chéral. Quand vous voulez sur franceculture.fr à la page de l'émission et en podcast évidemment. L'émission est préparée avec Jeanne Aléos, Corinne Amar, Romain de Bec de Lièvre et Lise-Marie Barré qui la réalise ce soir. Grande joie, c'était Yanis Joudad au son. Et ben moi sur Twitter, @MarieRicheux.
She watched the people, how they live. They'd forgotten how to give, how to give. They had fodder on their wings and dust.